Dieu est-il écolo ? Une émission produite par Radio FM+, présentée par Delly Fraisse, Stéphane Chenery et Luc-Olivier Bossé.
Bonjour à tous, bonjour aux auditeurs de FM+, bonjour Luc-Olivier Bossé.
Bonjour Stéphane, bonjour Delly.
Bonjour Delly Fraisse.
Donc nous nous retrouvons pour notre émission mensuelle qui s'appelle « Dieu est-il écolo ?» sur le thème de la Bible et de l'écologie. On essaye de faire quelques liens, hein, dans la mesure du possible, à partir d'un livre qu'on lit ensemble, qu'on étudie ensemble, un livre de Didier Fievé, pasteur, qui s'appelle donc « Bible et écologie, questions croisées » aux éditions Olivetan. On a vu successivement plusieurs chapitres, hein, les mois précédents. On a vu des chapitres sur Babel, sur
le déluge,
le jardin d'Éden, etc. Donc tous les chapitres. Et là, on en est au chapitre 7, qui est sur l'Exode. Et donc notre objet, c'est d'essayer de voir, donc, de faire le lien entre ces textes qui sont bien connus, qui ont été étudiés sous tous les angles. Et là, c'est l'originalité qu'on essaye d'avoir, c'est de voir un peu s'il y a quelques liens, quelques aspects qu'on peut découvrir sous les angles plus modernes de l'écologie. Voilà, donc ce chapitre 7, donc, il porte sur l'Exode chapitre 7 à 12. Didier Fievé l'a intitulé « Nature et liberté ». Est-ce que vous voyez un petit peu... D'abord, peut-être avant tout, Delly, est-ce que tu peux nous dresser un petit peu le contexte, hein, de ce récit ?
Oui, on va quitter donc tous les grands récits, tous les grands mythes fondateurs qui ont fait l'objet des précédentes émissions, et on va rentrer là dans l'histoire de la libération du peuple des Hébreux d'Égypte. Donc ce récit, même s'il est romancé, même si on ne va pas en rechercher une historicité rigoureuse, a un caractère historique qui est avéré, et on sait qu'il a été écrit, que les narrateurs avaient le souci de forger une histoire commune pour le peuple des Hébreux.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que par rapport à ce texte biblique, l'événement historique qui est derrière tout ça, qui a dû inspirer tout ça, aujourd'hui, il nous est complètement insaisissable. Et on a très, 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 très peu de traces. Hein. Mm-hmm. Alors, bien sûr, on a des éléments sur les pharaons, sur l'Empire d'Égypte et tout, mais de connecter ça avec l'histoire propre du peuple d'Israël, les liens sont beaucoup plus ténus. Alors, on cherche et puis, de temps en temps, on trouve des petits points, mais je pense que la fonction de ce récit n'est pas là. C'est-à-dire que ce n'est pas un texte qu'il nous faut lire en cherchant absolument des faits historiques. Ce qu'on sait aujourd'hui de manière assez fiable au niveau des exégètes, c'est-à-dire de ceux qui étudient les Écritures et qui les mettent en comparaison avec d'autres récits fondamentaux, d'autres cultures, c'est que ce récit autour de la figure de Moïse, il a été écrit à une époque où le peuple d'Israël vivait justement une crise, et une crise d'identité profonde. C'était à l'époque, les premiers récits se datent de l'époque du roi Josias, donc là on est au 7e siècle avant Jésus-Christ, et c'était un moment où le peuple d'Israël était dans le royaume du sud, et donc il y avait les Assyriens, l'empire assyrien avait envahi le royaume du nord, et le royaume du sud, il était aussi écartelé entre d'un côté l'empire d'Égypte, de l'autre côté l'empire de Babylone. Bon, et donc à ce moment-là, ce petit peuple, eh bien, il cherchait aussi à exister. Et donc, pour exister, il fallait se structurer. Et donc, il s'est structuré autour d'un État, le Royaume du Sud, qui était le seul État qui restait, puisque le Royaume du Nord avait été envahi, autour d'un temple. Et le roi Josias a restructuré tout le culte pour en faire du temple de Jérusalem, le temple emblématique. Et puis, c'était aussi un pays. Et au fond, pour structurer et nourrir tout ça, il fallait un récit aussi des origines. Parce que ça ne suffit pas d'avoir une administration qui fonctionne. Il faut aussi nourrir l'imaginaire, l'identité profonde. Et donc, le récit, eh bien, on l'a on a été le réactiver, parce qu'il y avait vraisemblablement déjà des histoires qui existaient autour de Moïse, mais on l'a réactivé et on l'a structuré. Et donc, autour de Moïse, autour de ce petit peuple qui avait réussi à se libérer de la puissance du pharaon, ça parlait à l'identité de ces gens qui étaient eux-mêmes pris entre des grands empires. Et donc, ce récit-là... Il donnait un sentiment d'appartenance. Et puis après, ce récit a pris encore plus d'importance le jour où le royaume du Sud est tombé sous la coupe de Babylone. Et à ce moment-là, alors que les personnes ont été dispersées, qu'il y avait une partie du peuple qui était à Babylone, une autre qui était partie en Égypte, une autre qui était... Bon, eh bien, il n'y avait plus d'État, il n'y avait plus de temple, il n'y avait plus de capitale. Et au fond, ce récit a eu cette fonction de nourrir l'identité. Le point commun entre toutes ces diasporas morcelées, éparpillées. Et donc, aujourd'hui, par rapport à l'écologie, je trouve très intéressant de nous pencher sur de tels récits. Parce que nous aussi, aujourd'hui, nous avons besoin de récits. Nous aussi, nous sommes confrontés à une crise, à une difficulté. Et on voit bien qu'il ne suffit pas de dire « il faut faire ci, il faut faire ça ». Et puis que ça suffit. Il nous faut aussi mettre en mots, créer une sorte de tension narrative qui nous donne une espérance, qui nous donne un objectif. Et donc d'arriver à rassembler tous les éléments qui puissent former une fresque, on va dire un récit cohérent, et ce récit qui puisse nous mobiliser. Donc, n'allons pas voir dans le récit de Moïse quelque chose d'historique, mais entendons ce récit-là comme étant un récit qui a nourri l'espérance d'un tout petit peuple qui a traversé d'immenses crises, et nous-mêmes intéressons-nous à ce récit en voyant comment, aujourd'hui, dans notre contexte, il peut aussi alimenter notre espérance, notre mobilisation intérieure.
Voilà, et ce qui est intéressant, et ce que développe YFV aussi au début, c'est que les problèmes climatiques, justement, tout ce qu'on connaît comme problèmes climatiques peuvent être soit une force de libération, hein, soit une occasion d'obstination, comme le pharaon. Hein, donc, on est devant ça, en fait. Hein, les plaies d'Égypte, c'est ça. C'est soit on peut les concevoir comme une force de libération, soit...
comme des désastres écologiques.
Et dans lesquels on s'obstine, hein, dans l'aveuglement et l'obstination.
Donc, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a des phénomènes naturels qui se manifestent. Alors le récit nous les raconte comme étant voulus, orchestrés et tout. Mais ça, c'est une mise en récit, justement. Mais il y a des phénomènes qui se manifestent. Et donc, effectivement, ça nous rappelle bien les dérèglements climatiques d'aujourd'hui, puisque c'est des invasions de grenouilles, de moustiques, de mouches, de sauterelles. Il y a la grêle. Donc, toutes des catastrophes qui viennent malmener, voire exterminer les récoltes. Par rapport à ça, on nous dit en face que Pharaon s'entête, s'obstine. Et comme si devant la réalité, au lieu que cette réalité devienne le lieu de conversion, parce qu'on remarque qu'on est à bout de souffle, qu'on ne peut pas tenir, cette réalité suscite plutôt une énergie peut-être désespérée, mais pour continuer à maintenir l'état dans lequel le royaume, l'empire d'Égypte se trouve. Et effectivement, on est devant cette même tension aujourd'hui, de ce même rapport de force. Qui sont les Moïse d'aujourd'hui ? Eh bien, c'est souvent les scientifiques qui se retrouvent aux premières lignes pour annoncer des faits, annoncer des études qui ont été minutieusement préparées, qui ont été analysées, qui ont été débattues. Et c'est pas généralement une personne qui a inventé ça et qui, en face, se retrouve à des pharaons qui résistent, qui contestent, qui décrédibilisent. Et donc là, on voit qu'il y a une tension, un rapport de force. Et au fond, ces scientifiques, je trouve très intéressant aujourd'hui de les écouter, parce qu'on entend tout. On entend des scientifiques qui deviennent militants, et ils disent « je ne peux pas faire autrement ». Et donc, ils s'habillent de ces combinaisons blanches et puis ils vont bloquer des usines ou quand on veut remettre en marche des usines à charbon, ils vont les bloquer. C'est des scientifiques qui font ça. Et puis d'autres qui disent, ben non, c'est pas mon rôle, je continue à faire mes recherches minutieuses dans mon laboratoire pour pouvoir amener d'autres éléments. Et donc, c'est aussi tous ces profils-là de personnes qui détiennent une parole, qui essaient de la partager et qui se retrouvent en face à des résistances et même agressives parfois. Mmh. Et donc, comment est-ce qu'ils tiennent le rapport de force ?
Même parfois des magiciens, hein, des pseudo-scientifiques qui apportent des contre-vérités pour justifier l'immobilisme des dirigeants ou des décideurs en disant voilà, c'est que il y a toujours eu des phénomènes de glaciation, de réchauffement, de refroidissement de la Terre, donc tout ça qui amène à nier en fait l'action de l'homme qui a été prouvée et qui est indéniable.
Alors justement dans le récit, c'est les sages d'Égypte et il y a une sorte de concurrence entre ce que fait Moïse avec les plaies et puis ce que font les sages d'Égypte, comme pour dire celui qui représente l'extérieur là, il va pas être plus fort que notre propre sagesse. Mmh. Et donc c'est aussi une façon de relativiser ou de décrédibiliser la parole de Moïse. Et effectivement, aujourd'hui on voit aussi ce rapport là s'établir avec des personnes qui et on voit il y a des campagnes très puissantes les réseaux sociaux pour ça sont vulnérables à ça. C'est-à-dire que la parole qui est la plus médiatisée finalement, c'est le récit qui s'impose. C'est un récit aussi qui s'impose. Et donc, les scientifiques qui, des fois, sont plus à l'aise pour publier dans des revues, pour publier des informations face à des cénacles un peu spécialistes, eh bien, leur parole est complètement noyée dans la grande agora que sont les réseaux sociaux. Et donc, c'est une façon de relativiser leur parole, relativiser leurs propos, relativiser leur autorité. Et donc, ce rapport entre Moïse et les sages d'Égypte, aujourd'hui, se retrouve au même niveau. Et là-dedans, comment faire la part des choses ? Comment faire émerger une capacité de changement, une capacité d'écoute ? C'est un vrai défi pour aujourd'hui.
Moi, dans la lecture de ces textes, il y a quelque chose qui m'a troublée. Et je me dis, comment comprendre l'entêtement du pharaon ? Parce que ce qui est envoyé, c'est quand même très très grave. Et un entêtement qui est annoncé, puisque quand Dieu appelle Moïse à libérer le peuple, il lui dit chaque fois, j'endurcirai le cœur du pharaon. Comment comprendre ça ? Moi, ça m'a troublé cette façon de présenter les choses.
Qu'est-ce qui t'a troublé là-dedans ?
Ce qui m'a troublé, c'est que Dieu dise à Moïse, voilà, tu vas y aller, tu vas le réclamer, et puis ça ne marchera pas, quoi. Chaque fois, j'endurcirai un peu plus son cœur. Je me demande, quelle est l'intention du narrateur qui a là derrière ? Pourquoi il nous raconte ça ?
Alors, c'est vrai que c'est troublant pour nous aujourd'hui parce que ça voudrait dire que Dieu se trouve des deux côtés de la force. C'est-à-dire, Dieu est celui qui envoie Moïse et puis Dieu est celui qui endurcit Pharaon. Et on se dit, mais là, c'est un jeu à somme nulle. Oui. C'est-à-dire qu'il neutralise. Et donc, quelle est cette malveillance aussi de la part de Dieu que de dire « j'endurcirai le cœur de Pharaon
». Il ne lui facilite pas le travail, hein, Moïse.
C'est ça.
Même s'il lui a donné quelques signes pour essayer d'amadouer le Pharaon. Il ne lui facilite pas le travail.
Tout
quoi.
À fait.
Et on a l'impression d'une espèce d'escalade qui se passe. Alors, avec chaque fois le pharaon qui appelle ses magiciens après chaque plaie.
Comment comprendre ça ? En fait, moi, je pense qu'il faut se situer du côté du narrateur. Et le narrateur, je crois que son intention profonde, c'est de montrer que dans tout ça, il y a quelqu'un en gouvernail. Et que l'histoire qui semble ténébreuse, obscure, et on va droit dans le mur, il n'empêche, il y a quelqu'un au gouvernail. Et le fait que ce quelqu'un soit au gouvernail, ça veut dire que l'obstination de Pharaon, il ne faut pas la prendre comme étant la mise en échec de la parole qui nous envoie vers Pharaon pour lui parler, pour lui faire changer les choses. Il ne faut pas la prendre comme étant une sorte de contre-dieu, de contre-divinité qui viendrait résister, mettre des savonner la planche pour que tout... Non, Dieu est au gouvernail pour le narrateur. Et au fond, cet endurcissement, il faut l'entendre comme étant quelque chose de faisant partie du récit. Et donc, il faut faire avec. Et donc, il faut avancer pas à pas dans cette confiance que celui qui est au gouvernail n'est pas surpris. Oui. N'est pas surpris par ça. Mais il faut quand même y aller, il faut quand même avancer. Et cette logique, alors on pourrait se dire, elle est, sur quoi est-ce qu'elle se base pour dire que Dieu est au gouvernail, que l'histoire... c'est l'espérance d'Israël, en fait. Dans l'histoire, elle est menée à son accomplissement. Ultimement, elle sera menée à son accomplissement. Mais alors, par rapport à ça, il nous faut quand même poser des actes, poser des gestes. Et aujourd'hui, je pense qu'on est aussi dans cette confrontation. C'est-à-dire que combien de personnes se disent, de toute façon, ça ne sert pas à faire grand-chose, parce qu'on sait en face que les pharaons d'aujourd'hui vont se dresser et ils vont tout faire pour éviter que ça change. Donc, au lieu de baisser les bras, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, ce récit nous dit, posons un acte et après un autre, et voyons comment les choses avancent.
En même temps, ça rend le personnage de Moïse très valeureux. Il ne se décourage pas. Et chaque fois, il y reva, il retourne voir le pharaon, et il remet ça sur le tapis. Et donc, ça indique bien qu'il y a au fond, qu'il est porté par une espérance. Qui lui permet de chaque fois retourner et de ne pas se décourager. Ça aussi, c'est un enseignement qu'on peut tirer aussi peut-être de... Moi, c'est un peu ce que j'y ai vu, quoi.
Et c'est ça qui est nouveau, parce que, en fait, des événements climatiques, des catastrophes, des séismes ou toutes sortes de catastrophes naturelles, il y en a toujours eu, et des migrants... Mmh. Des migrants aussi qui fuient devant ces catastrophes, il y en a toujours eu. Mais par contre, c'est peut-être ce que tu voulais dire, ce qui est nouveau, c'est que il y a toujours Dieu qui accompagne. Enfin, c'est ça que Dieu accompagne. Il y a toujours quelqu'un qui accompagne l'homme.
Dans ce récit, et je pense que c'est là aussi qu'il peut nous inspirer, il y a cette confiance qu'il y a la cohue du monde. Et en fait, il y a une voix, V-O-I-X, qui travaille le cœur de Moïse, qui travaille la patte de l'actualité pour faire advenir quelque chose. Mm-hmm. Et l'espérance, moi, je l'entends là. C'est-à-dire que, et c'est ça peut-être aujourd'hui aussi qui est un défi pour nous chrétiens, c'est comment rendre crédible cette espérance. Parce que là, on sent des fois qu'au niveau scientifique, j'entendais plusieurs podcasts ces derniers temps, des scientifiques qui sont très 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 pointus sur leur sujet, qui ont étudié et tout, et on leur dit « mais qu'est-ce que vous espérez là ?» Et ils disent « je suis très pessimiste ». Et c'est vrai que les pronostics sont assez sombres quand même, aujourd'hui.
Très sombres.
Alors du coup, dans ce récit, moi j'entends que ce côté obscur, il existait. Et au fond, voilà, il y a un peuple qui témoigne que dans tout ça, il y a aussi cette voix qui invite à s'engager, à s'impliquer et qui travaille la personnalité de Moïse. Parce que dans le récit aussi, Moïse, il n'est pas tout blanc, tout noir. Il y a des hésitations, il y a des hauts, il y a des bas. C'est un homme colérique. Il est présenté comme étant hyper impulsif. Il est présenté aussi comme étant quelqu'un de sensible à la justice. Donc, c'est une figure assez complexe, assez subtile. Mais je trouve très intéressant ces récits parce que au lieu de donner un drame, on va dire, assez simple, assez basique, puis de toute façon, à la fin, tout finira bien. On est embarqué dans une narration qui nous montre, qui fait une part à chaque difficulté, à chaque élément, mais aussi à cette possibilité d'espérer. Et c'est ça qui est, à mon avis, d'une richesse immense. On a besoin de cette complexité aujourd'hui pour pas... baisser les bras ou pour pas prendre le glaive et puis d'aller bâillonner et puis neutraliser les personnes qui pensent pas comme nous.
Alors dans la réflexion de Didier Fievé, il consacre un moment de son chapitre important à l'histoire du peuple hébreu donc en Égypte et aux questions de migration. Et donc, il dit que la migration est fondatrice. Mais on peut entendre... On a du mal à entendre... Enfin, moi, j'ai du mal à entendre ça quand on le projette maintenant et dans l'actualité, hein, où on voit tout ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il en est ? Qu'en est-il quand la migration n'est pas choisie, mais qu'elle est subie ? C'est ce qui se passe. Tous ces gens qui arrivent maintenant sur nos territoires, sur nos côtes, dans nos pays dits développés, ils sont poussés par quelque chose qui est de l'ordre de la survie, enfin de choisir la vie, quoi.
Oui.
Donc, je trouve que c'est... il dit aussi, on habite toujours chez les autres. Et ça, c'est intéressant. Je crois que c'est toi, Luc Olivier, qui citait donc le mot de la CIMAD, qui disait il n'y a pas d'étrangers sur cette terre. Yann Cuvillier disait, lui, il n'y a que des étrangers sur cette terre. Donc, c'est une autre façon, un autre regard qui se porte. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire ? On habite toujours chez les autres. Nous, quelle est notre place ? Enfin, quand maintenant on évoque le droit du sol, quand on entend tous ces débats qui sont...
On est toujours un exilé, quoi. Hein. On a été toujours précédé par quelqu'un.
Voilà.
On n'a pas la possession
d'un territoire. C'est intéressant, ce regard. Il n'est pas pas du tout conformiste. C'est
ça. Et c'est vrai qu'on n'est pas là en train de parler d'une solution politique, économique, culturelle à la question des migrations d'aujourd'hui. Mmh. On est simplement en train de rappeler un fondamental qui nous permet de regarder autrement la personne qui migre. Et donc, on peut toujours prêter le flanc quand on parle de ces éléments. Hein, il n'y a que des étrangers, nous sommes tous finalement des migrants sur cette terre. On peut prêter le flanc à ceux qui nous disent « bon, mais ça, c'est des belles idées généreuses, hein, mais concrètement, aujourd'hui, vu le nombre... »
Que fait-on ?
Que fait-on ?
Ah ben oui.
Et je pense qu'il faut, entendre ça... Et donc, on est sur une crête. Simplement, là, c'est clair que dans les écritures bibliques, il y a une tension entre... On a parlé tout à l'heure là, avec le roi Josias de l'idée d'avoir une terre, de l'idée d'avoir un état, de l'idée d'avoir un temple, d'avoir une ville, d'avoir une... Et il y a une tension entre cette réalité-là et la réalité que, finalement, l'histoire nous envoie sur les routes. Et il y a l'exil, avant l'exode, il y a aussi l'exil. Avant l'exil, il y a aussi l'exode. En fait, il y a le départ pour sortir de la servitude, et puis il y a le départ forcé qui nous pense à prendre la route. Et on est toujours en tension entre ce besoin de stabilité et le fait que l'histoire ou les événements nous poussent à prendre la route. Et comment est-ce qu'on articule ? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en politique, on voit ça aussi. Il y a ceux qui valorisent l'État, qui valorisent le sol, qui valorisent une culture, et aussi qui valorisent une identité. Et puis, il y a ceux qui disent, non, il faut accueillir l'autre dans son étrangeté, parce que nous sommes toujours au bénéfice aussi d'une rencontre, et toute culture s'est fécondée, enrichie de pouvoir être en tension, en accueil les uns des autres. Et au fond, on est là sur deux pôles, et qu'au fond, on ne peut pas balayer de la main en disant, on met tout d'un côté, c'est-à-dire tout dans le fait qu'on est que des migrants, et puis on délaisse l'autre. On a besoin aussi de... Ça, c'est première chose. Et puis deuxième chose, dans les Écritures, il y a aussi une dimension, c'est que cette question de la terre, elle prend petit à petit une forme, on appelle ça la terre promise. Et avec Moïse, c'est justement partir à la quête de la terre promise. Et Moïse n'entre jamais en terre promise. Et c'est devenu aussi une figure pour dire que la terre dans laquelle nous pourrons... finalement être pleinement, nous pourrons nous sédentariser pleinement, elle est devant nous. Elle n'est pas là maintenant à protéger comme un bien.
On reste à l'entrée.
On reste à l'entrée.
Comme Moïse.
C'est ça.
Voilà.
Et ce qui fait que dans la théologie, le fait de poser ça comme une promesse devant nous, je crois que ça maintient une tension qui nous permet de dire aujourd'hui, révisons ce qui doit être révisé pour faire une place à la fois à ce besoin de stabilité, mais ne nous crispons pas sur le fait qu'il y a un État et puis on le maintient tel quel et on ferme tout, on dresse des frontières, des murs. Hein, c'est dans notre actualité aujourd'hui, c'est impressionnant le nombre de murs qui sont dressés entre la frontière entre les États-Unis et le Mexique, entre Gaza et Israël, enfin voilà, les murs. Hein. Et puis donc, relativisons ça et puis en sachant que la Terre, elle est toujours devant nous et donc soyons aussi dans cette ouverture. Et au fond... la Bible aussi, à un niveau individuel, permet de spiritualiser la chose en disant que le mot hébreu, vous savez quelle est une des étymologies du mot hébreu ? C'est les apirou. Apirou, c'est ceux qui traversent. Et apirou, c'était une tribu qui avait osé franchir une frontière et qui était mal vue. C'était un peu des rebelles nomades qui avaient fait une incursion dans... Et donc, les Hébreux, c'est ceux qui traversent, c'est ceux qui franchissent des frontières, qui ne restent pas dans leur territoire. Mmh. Et là, de dire que nous sommes tous des Hébreux, nous sommes tous des traversants, c'est-à-dire que nous sommes toujours invités à traverser les frontières, à transgresser certains murs. Et au fond, parce que notre patrie, elle n'est pas ici-bas, elle est au-devant de nous et ultimement, elle est en Dieu, cette patrie. Et donc, on voit bien, on n'est que de passage sur cette terre et que là où nous serons vraiment dans notre patrie, ça c'est aussi une espérance que les chrétiens appellent eschatologique, donc ultime, c'est-à-dire que notre patrie, elle n'est pas ici-bas, mais elle est au-delà de cette réalité. Mmh. Mais il y a une patrie. Et du coup, parce qu'il y a une patrie, je peux aussi accepter que toutes les patries ici-bas ne sont pas l'ultime patrie dans laquelle il faut absolument que je sois et dans laquelle je me barricade pour surtout pas accueillir les autres.
Nous sommes des oiseaux de passage.
Nous sommes des oiseaux migrateurs.
Et oui,
bien. C'est ça. On fait une petite pause musicale peut-être pour respirer. À tout à l'heure. Donc on va passer un petit morceau de musique bien connu sur ce thème-là.
Go down, Moses.
Thank you.
Nous sommes dans notre émission « Dieu est-il écolo ?» mensuelle sur Radio FM+, où nous étudions, nous parlons du livre de Didier Févé « Bible et écologie » paru aux éditions Olivier Tang « Questions croisées ». Nous abordons aujourd'hui le thème de l'Exode, chapitres 7 à 12, avec Luc-Olivier Bossé, pasteur de l'Église protestante unie de Montpellier et alentour, et Délie Fraisse, donc, qui est aussi membre de cette Église. Alors, on a parlé de différentes choses. On a parlé du thème de la migration. On a parlé... et on pourrait peut-être, pour démarrer cette deuxième partie, parler de... Du passage du buisson ardent. Hein, je crois que c'est intéressant d'en dire quelques mots. Est-ce que tu pourrais nous le lire peut-être rapidement, si ce n'est pas trop long ?
Alors, oui, c'est dans le livre de l'Exode, au chapitre 3. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ce récit met en scène Moïse, qui a déjà tout un passé derrière lui. On pourrait dire même un passif. Parce que toute l'histoire du petit bébé là, dans un couffin sur le fleuve du Nil, ça c'est de la longue histoire passée. Moïse a grandi, il a été donc, il a grandi dans une double culture, à la fois dans la cour de Pharaon, et puis en même temps sa nourrice c'était sa propre mère, et donc il connaît les deux facettes. Et puis un jour, alors qu'il voit un contremaître égyptien s'en prendre vertement à des Hébreux et à les battre, Moïse intervient et le récit nous dit qu'il tue l'Égyptien.
C'est un sanguin.
Voilà.
C'était un sanguin.
C'est un sanguin. Oui. Donc ça montre effectivement à la fois son impétuosité, sa démarche aussi, il devait se sentir plus libre que les autres pour se permettre ça. Et puis ça montre aussi qu'il a un sentiment de justice. Il ne supporte pas l'injustice. Et que se passe-t-il ? C'est que quelques temps après, il voit deux autres Hébreux qui se chamaillent et il intervient pour résoudre, alors là, sans neutraliser un de ces Hébreux, un des protagonistes. Et au lieu d'être accepté dans son autorité, dans son intervention, voilà qu'un des Hébreux le conteste et lui dit « Mais tu vas faire la même chose que nous, à nous, ce que tu as fait à l'Égyptien. » Bon, et du coup, Moïse voit que être dans une double culture, c'est jamais évident. Et donc, il a pris des risques et voilà qu'il se fait rejeter. Du coup, il fuit. C'est un temps de crise profonde. On pourrait dire aujourd'hui un burn-out. Moïse est là, celui qui a été engagé pour essayer de changer les choses, pour essayer de prendre position. Et au lieu qu'il reçoive les couronnes du vainqueur, des lauriers de reconnaissance et de gratitude, c'est l'inverse qui s'est produit. Et on le voit donc partir, recommencer sa vie ailleurs. Et donc, il est dans le désert. Il a trouvé un gîte auprès de Jéthro et à Madian, et dans un pays madian. Et puis, il a trouvé une épouse, et voilà que Moïse se refait une santé, on va dire, où il se pose. Et arrive cet épisode du buisson ardent, justement, dans ce moment, et ça va être le tournant, puisque c'est dans cette rencontre avec ce buisson qui brûle sans se consumer, que Moïse entend la voix qui l'invite à retourner en Égypte et à faire face à Pharaon pour libérer le peuple des Hébreux qui était esclave. Donc, on va peut-être pas tout lire parce que c'est très long, mais ce que je voulais pointer, c'est le début de ce chapitre 3 du livre de l'Exode. Moïse faisait paître le petit bétail de Jéthro, son beau-père, qui était prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et arriva à la montagne de Dieu, à l'Horeb. Le messager du Seigneur lui apparut dans un feu flamboyant, du milieu d'un buisson. Moïse vit que le buisson était en feu, mais que le buisson ne se consumait pas. Moïse dit « Je vais faire un détour pour voir ce phénomène extraordinaire. Pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas ?» Le Seigneur vit qu'il faisait un détour pour voir. Alors Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !» Il répondit « Me voici !» Dieu dit « N'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sacrée. » Il ajouta « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se détourna, car il avait peur de diriger ses regards vers Dieu.
Le Seigneur dit, « J'ai bien vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses tyrans. Je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays vers un bon et vaste pays, un pays ruisselant de lait, de miel, là où habitent les Cananéens, les Hittites, les Amorites, les Périsites, les Hivites, les Jébusites. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que les Égyptiens leur font subir. Maintenant, va, Moïse, je t'envoie auprès du Pharaon. Fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. »
Alors, ce buisson qui brûle et ne se consume pas,
qu'est-ce qu'on en fait?
Étonnant, qu'en fait-on? Oui.
Ça reste toujours un phénomène extraordinaire.
C'est incroyable.
Oui. Ouais. Alors comment l'entendre sans chercher à réifier le signe, la poésie du texte? Réifier, oui. Ça voudrait dire qu'on essaye de tout expliquer, mm-hmm. et puis finalement on passe à côté de l'essentiel. Ce que je trouve de très intéressant, c'est que là, Moïse, il est dans un temps de... on va dire, de désabuser. Sa colère, on pourrait son sentiment de justice, c'est aussi des fois un feu dévorant qui nous pousse à agir. Mm-hmm. La source de sa motivation qui lui a fait prendre des risques, c'est comme un feu qui le saisit et qui lui fait sortir de sa zone de confort. Bon, et ben ça l'a amené dans une impasse. Il a dû fuir, il a dû quitter, il a dû partir.
Il est en retraite, là, quasiment.
Il est en retraite. Hein. Comme si ses ailes avaient été coupées. Et comme si le feu intérieur l'avait consumé. Justement, l'avait consumé. Or là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un buisson qui brûle sans se consumer. Donc, pour moi, le buisson, c'est... le symbole, le signe même de cet élan, de cette énergie, on pourrait dire aujourd'hui.
De son désir.
Oui. Alors, oui.
Didier Févé parle de désir, oui.
Oui, alors le désir, c'est justement ça. Le désir, à la différence d'autres élans, c'est ce feu qui continue toujours de brûler sans s'arrêter, hein, et sans nous disperser ou finalement nous laisser comme des cendres au bord de la route. Le désir, c'est ça. Mais cette énergie, Moïse, il la voit face à lui. Il ne l'a pas en lui. Hein. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il fait cette rencontre avec un vis-à-vis qui brûle sans consumer. Et donc, la nouveauté, l'altérité qu'il découvre, elle se trouve là. C'est quelque chose qu'il ne connaissait pas jusque-là. Mmh. Et au fond, si ce récit, c'est un récit de vocation, je crois que la vocation, c'est d'être mis en contact avec une réalité qui ne cadre pas avec ce qu'on connaissait jusque-là, mais qui nous ouvre à autre chose. Et donc, du coup, piqué dans notre curiosité, on entre en dialogue avec ça, on va plus loin, on répond à l'appel. Voilà. Et donc, Moïse, là, il vit ce tournant-là. Donc, j'ai envie de dire, c'est aussi une transformation dans sa motivation, puisque s'il retourne en Égypte, il ne va pas retourner comme avant. Il ne va pas refaire ce qu'il a déjà fait. Mais il retourne avec ce défi de laisser cette flamme qui brûle sans consumer l'habiter. Et c'est ça qui va lui permettre de faire face à toutes les résistances, à toutes les obstinations, à toutes les difficultés qu'il aura sur sa route.
C'est le désir qui prend la place sur la raison, parce qu'il avait toutes les bonnes raisons. S'il avait examiné les choses à plat, comme nous le faisons parfois dans les décisions qui concernent notre vie, il était dans un lieu sécure, il n'avait plus apporté cette espèce d'ambiguïté d'être à la fois élevé par la cour du Pharaon et à la fois être du peuple hébreu. Il a pris une femme, il a l'air... bon. Donc là, c'est bien quelque chose aussi qui nous dit qu'il y a, que ça impulse ce quelque chose qui est de l'ordre d'un désir très fort au-delà de la raison, me semble-t-il. Moi, j'y ai vu un peu cet aspect-là,
oui.
dans ce feu.
Je comprends. Alors, il y a juste un élément que je trouve très intéressant, c'est que Moïse, on va dire, dans ce récit, il se questionne, il se parle à lui-même, et au fond... le désir lui vient non pas parce que lui-même l'aurait réactivé, mais de cette voix qui lui parle. Et donc, c'est pas simplement l'homme, Moïse, qui dans un soliloque retrouve ses ressources, mais c'est dans une rencontre, dans un vis-à-vis. Et ça aussi, je crois que c'est un élément fort du récit et qui aujourd'hui peut nous alimenter dans nos engagements, parce que finalement, dans tous ces engagements où il faut du souffle au long cours, et notamment par rapport aux défis climatiques, par rapport à ce qu'on peut changer, comment le changer, c'est de rappeler l'importance de ce face-à-face, de ce vis-à-vis qui peut intervenir finalement dans toutes les rencontres que l'on vit au quotidien et qui vont être ceux et celles par qui le désir va être réactivé en moi. Je ne le sais pas à l'avance. Et donc, c'est d'être dans cette ouverture. Quand je perçois ce feu qui brûle sans consumer, là, c'était un buisson. Alors, on pourrait dire plein de choses sur le buisson si vous avez envie, mais ça peut être aussi dans le quotidien. Le buisson, c'est le symbole même de ce qu'il y avait. C'est pas le grand arbre, c'est pas. Mais c'était le petit buisson du quotidien. Dans le quotidien, quels vont être les buissons ardents que je vais rencontrer et qui vont piquer ma curiosité et à quelque part, grâce à eux, je vais découvrir cette voix qui parle de plus loin que ce que dit l'autre, de plus loin que ma propre actualité et qui m'aide à prendre distance sur cette actualité. Et parce que ça réveille ce feu, cette énergie qui brûle sans consumer, eh bien, du coup, je repars dans le quotidien avec un supplément d'âme quelque part.
Très bien, on va avancer un petit peu dans le texte, puisque je crois que, Délie, il y avait un aspect qui t'avait intéressé, c'est, quand on en avait discuté, c'est le lien entre dérèglement social et dérèglement écologique. L'aspect qui lie équité sociale et exigence écologique, est-ce que tu pourrais développer un petit peu ce point ?
Oui, ce récit donc, sur lequel s'attarde Fievé est très complexe, puisqu'on y voit que la puissance libératrice de Dieu passe par des fléaux écologiques. Donc il y avait un peuple qui souffrait, et bon, pour le libérer, il envoie donc des fléaux écologiques. Et donc dans le texte, dans sa réflexion, Didier Fievé insiste beaucoup là-dessus. C'est l'importance d'associer l'équité sociale et l'exigence écologique. Et ça, ce sont des enseignements qui sont, je crois, intéressants. On a beaucoup parlé dans notre cercle de lecture, de la sobriété choisie, de la sobriété subie, etc. Quelles leçons devons-nous en tirer, nous ? Nous ne pouvons pas nous permettre d'être des écologistes terroristes qui nierait, c'est facile aussi de consommer bio quand on a les moyens, de faire des choix quand on est bien logé, de faire des et qu'on a un appartement suffisamment bien, organisé et conditionné pour pas qu'il y ait des pertes d'énergie, etc. C'est beaucoup plus facile à des gens qui n'ont pas des problèmes, on va dire, économiques, d'être vertueux en matière écologique. Mais il ne faut pas oublier non plus tous les autres. Et ce récit-là, il fait le lien entre les deux. C'est une libération donc des Hébreux. Et donc, cette exigence écologique... Comment nous être vigilants à ne pas être des terroristes écologistes, mais d'être vigilants à toute cette notion d'équité sociale et de ne pas faire ça tout seul et de ne pas se considérer comme une élite qui aurait fait des choses. Comment associer tout
je
ça ?
Je crois que c'est là où nous, chrétiens, on peut apporter, je crois, quelque chose à ce débat.
Oui.
Donc le pape François l'a fait, puisqu'il a, dans son encyclique, il a bien fait le lien justement entre...
Oui.
Entre tout justice sociale et écologie.
Oui.
Et je crois que c'est là qu'on a quelque chose vraiment à apporter dans la réflexion.
Ce que je trouve très intéressant dans ce récit de l'Exode, c'est que ce n'est pas le récit du salut du héros Moïse accompagné accessoirement de Aaron, mais que l'enjeu, c'est le peuple. En fait, c'est laisse partir mon peuple. Et donc, quand l'enjeu, c'est le peuple, c'est-à-dire c'est la cohue du peuple, c'est-à-dire c'est toutes les générations confondues, c'est les classes sociales aussi, c'est toute cette diversité. Mmh. Et donc, ce récit, il met en scène toute cette aventure où Moïse se retrouve à la fois face à Pharaon, on en a beaucoup parlé, mais il se retrouve aussi face au peuple. Et donc, on réussira à sortir ensemble ou on ne pourra pas s'en sortir. Hein. Y a une dimension collective. Et donc, ce côté collectif, effectivement, aujourd'hui, il est fondamental parce qu'on voit que par rapport aux défis, on ne peut pas les régler tout seul. C'est comment embarquer tout le peuple dans ça. Et donc, ça demande aussi une vitalité démocratique. Mmh. Ça demande aussi de voir dans la société, il ne suffit pas d'avoir d'un côté les leaders, qu'ils soient économiques, politiques, et puis de l'autre côté, je ne sais pas quoi. Hein, mais c'est ensemble. Et donc, comment nourrir les différents tissus, c'est-à-dire le tissu associatif, le tissu économique, le tissu politique. Il nous faut chérir ces différents tissus parce que c'est ça qui va nous permettre de nous en sortir.
Et ce peuple, d'ailleurs, c'est amusant, à un moment de désarroi, il regrette le temps de la consommation d'abondance d'autrefois.
Et oui.
Voilà, et donc c'est nous aussi, ça.
Ah, mais complètement. Et donc il y a ces altermoments. Alors, c'est lorsqu'il était dans le désert, confronté à d'autres difficultés et tout. Et on voit le rôle de Moïse comme étant celui qui doit être à la fois fertile dans son imagination face à Pharaon, hein, et puis après,
c'est le peuple qu'à faire. Et oui, le peuple à faim.
Ouais, le peuple à faim. Quand il est sorti, il y a de nouveau. Et donc, l'histoire ne se termine jamais. Mais je pense que là, l'enjeu, c'est de voir aussi que ce récit de l'Exode, c'est aussi le récit qui a donné à Israël, où Israël s'est trouvé dans ce récit, les rites qui lui ont permis de faire peuple, les rites qui lui ont permis de se rassembler, et donc par exemple le rite de la Pâque.
De la Pâque, institué là. Hein,
voilà, et donc on a aussi besoin de ces moments de rassemblement, on a besoin de ces moments de mémoire, on a besoin de ces moments d'arrêt, on a besoin de... La raison pour sortir d'Égypte, c'était aussi de pouvoir librement aller adorer son Dieu en dehors de l'emprise de Pharaon. Donc on a besoin aussi de pouvoir s'extirper de certaines emprises. Mmh. Et c'est toutes ces dimensions-là où on se rassemble et où on communie à quelque chose qui n'est pas de la compétition, mais quelque chose de la communion, qu'on trouve ensuite les ressources pour avancer dans le dépassement des difficultés. Qu'on traverse notre mer rouge, nous aussi.
On aurait pu évoquer cet aspect-là. Bon, il y a pas mal de choses qu'on aurait pu dire sur ce texte.
Alors, j'ai un dernier truc à dire, parce que je crois qu'on arrive à la fin.
Eh oui, c'est terminé.
Tu vois, il y a un truc qui me semble très important à préciser. C'est qu'on avait dit tout à l'heure que les fléaux, hein, ils avaient été envoyés par Dieu et tout. Et donc, ça donne une image aussi très... très
punitive. Hein,
punitive et tout. Oui, oui. Et en fait, moi, je crois qu'il faut souligner que dans ce récit, c'est que les fléaux, c'est une question d'interprétation. Comment les plaies, comment est-ce qu'on les interprète? Et que Dieu n'est pas dans le fléau en tant que tel, mais il est au-delà. Et en fait, il est celui qui nous permet de trouver une inspiration transcendante à ça. C'est pas le fléau en tant que tel qui porterait en lui-même une force qui a permis après au peuple d'Israël de se libérer. C'est pas grâce aux plaies que le peuple s'est libéré, a pu sortir. C'est pas ça, hein, le récit. Le récit, c'est de dire, il y a eu ces plaies qui sont venues heurter la conscience de Pharaon parce qu'il y avait entêtement, parce qu'il se fermait à ce qui était demandé, à la réalité qu'il y avait devant lui, et qu'au fond, au-delà de ces plaies, il y a eu une voie qui a permis d'interpréter ça, non pas dans un sens fataliste, non pas dans un sens punitif uniquement, mais comme étant un appel à la liberté et de faire quelque chose de ce fléau. Ce n'est pas le fléau en tant que tel qui apporte la libération, mais c'est la voie de Dieu qui parle et qui permet au peuple
d'avancer.
Et ça, je pense que c'est aussi important aujourd'hui. C'est pas les catastrophes, c'est pas les éboulements, c'est pas les déluges, les sécheresses, les canicules qui, en tant que telles, sont le signe de Dieu. Mmh. Mais il faut entendre une voix qui nous permet tout en étant ouvert à cette réalité, de nous inspirer pour savoir quoi faire face à cette réalité. Et c'est là que la voix de Dieu intervient.
Merci, merci beaucoup. Merci Luc-Olivier, merci Délie pour cette...
Merci cette Stéphane.
Réaction. Merci Stéphane. Oui.
Et donc nous donnons rendez-vous aux auditeurs de Radio FM+, le mois prochain, sur un autre thème de la Bible, sur cette émission, donc Bible et écologie. Merci, merci à tous, à bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
C'était Dieu est-il écolo, une émission produite par Radio FM+.